Il est 7h30, soyez les bienvenus sur France Inter. Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le malaise des directeurs d'école au programme d'une réunion extraordinaire aujourd'hui. Rue de Grenelle, le ministre a proposé ce week-end qu'il soit secondé, ses directeurs, par des volontaires du service civique. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? Reportage à suivre. À suivre également la défense de François Bayrou qui sera convoqué par la justice dans un mois dans l'affaire des assistants au Parlement de Strasbourg. La fraude sociale au menu d'un rapport rendu hier au gouvernement. Enquête sur la mort des 39 immigrés il y a deux semaines en Angleterre dans un camion frigorifique. Et puis la joie pour terminer des Sud-Africains qui accueillaient hier les Springboks champions du monde de rugby 2019.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
France Inter.
Et pour commencer, Sébastien, ces mots terribles, je les cite. Aujourd'hui, je me suis réveillé épouvantablement fatigué, épuisé seulement après 3 semaines de rentrée.
Ces mots, ce sont ceux de la lettre de Christine Renon à ses collègues, cette directrice d'école de Pantin, dont le suicide, découvert le 23 septembre dernier, continue donc de bouleverser le monde enseignant plusieurs semaines après. À la demande des syndicats, un CHSCT extraordinaire, un comité d'hygiène et de sécurité va donc se réunir aujourd'hui au ministère rue de Grenelle afin de débattre de la charge de travail des professeurs et plus particulièrement des directeurs d'école tiraillés entre leurs cours et de multiples tâches quotidiennes. Le gouvernement a de son côté commencé à envisager quelques pistes et notamment l'intervention de volontaires du service civique dans les relations avec les familles. Une hypothèse qui est loin de convaincre les premiers concernés. Sonia Princey.
Répondre au téléphone, ouvrir la porte de l'école, recenser les élèves qui mangent à la cantine, les directeurs sont surchargés de petites missions, mais les confier à des jeunes en service civique n'est pas une bonne idée, selon Sabine Duran, directrice d'une école élémentaire à Pantin.
Les services civiques, déjà, ce sont des personnes qui ne sont pas embauchées de façon pérenne dans les écoles. Par ailleurs, ce sont des jeunes qui doivent être accompagnés et donc tutorés. Donc ça fait du travail en plus, finalement. C'est des rustines. En fait, c'est comme si on nous faisait croire qu'il suffit de mettre des gens dans l'école pour que ça fonctionne. Et on oublie tout ce qu'il faut de formation pour travailler avec les enfants, pour s'adresser aux familles.
Des jeunes en service civique sont pourtant déjà présents dans certains établissements scolaires, comme le rappelle Marie Trélucane, directrice d'Unicité, la principale organisation d'accueil des jeunes en service civique.
Il y a déjà des expériences de jeunes mobilisés, notamment sur l'organisation d'actions citoyennes, de temps de rencontre avec les familles, un peu de soutien logistique pour les événements de l'école, qui peuvent apporter un coup de pouce. Il y a évidemment des limites. Ce ne sont pas les jeunes qui seront les assistantes administratives des directeurs. Ça, c'est juste pas possible et c'est pas dans leur capacité. Et la deuxième condition, c'est qu'il va falloir avoir davantage de postes de services civiques financés par l'État.
Cette aide ne pourra en effet sans doute pas être apportée aux 45 000 directeurs d'école.
Sonia Princey. Et à l'occasion de ce comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire aujourd'hui à Paris, les syndicats appellent eux à manifester partout en France pour dénoncer les conditions de travail des enseignants.
7h33, l'autre actualité politico-judiciaire, Sébastien, avec François Bayrou sous la menace d'une mise en examen.
Gros coup d'accélérateur hier dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Le président du parti, François Bayrou, sera en effet convoqué le 6 décembre prochain par les juges d'instruction à des fins de mise en examen. François Bayrou qui espère enfin pouvoir apporter les preuves, dit-il, de son innocence. On l'écoute au micro de France Bleu Béarn.
C'est pas parce que il y a des éventualités que ça se réalise. J'ai déjà été mis en examen et il se trouve que ça a débouché sur une relaxe générale. Et donc j'espère bien, ou sur un non-lieu, j'espère bien qu'on va pouvoir faire cette preuve. Ce sont des accusations qui concernent tous les partis politiques français et plusieurs dizaines de parlementaires européens. C'est exactement la même affaire que celle qui concerne Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, enfin c'est les mêmes accusations. C'est la première fois que nous allons pouvoir rencontrer un juge, ça fait 2 ans et demi que ça traîne, hein. Tous les responsables et tous les cadres de notre mouvement vont pouvoir le faire et nous espérons bien, et j'espère bien, pouvoir apporter la preuve que toutes ces accusations sont infondées parce que nous disposons d'un grand nombre de preuves qu'on va enfin pouvoir faire valoir devant un juge.
Le patron du Modem avec France Bleu Béarn. Financement politique encore avec les comptes de campagne du Front National, cette fois devant le tribunal. À partir d'aujourd'hui, le FN a-t-il escroqué l'État lors des législatives de 2012 en se faisant rembourser des kits de campagne vendus à ses candidats pour plus de 16 000 euros. 7 personnes sont convoquées jusqu'au 29 novembre prochain, mais pas Marine Le Pen. À lire sur franceinter.fr, la situation financière du RN aujourd'hui, caisse vide et compte dans le rouge. Comment limiter la fraude aux prestations sociales? Une fraude très difficile à estimer, entre 13 et 45 milliards d'euros selon la Cour des comptes, à peine plus d'un milliard selon les organismes sociaux. Un rapport a été remis hier à la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui propose notamment de croiser les fichiers du fisc et de la sécu, comme cela existe déjà en Belgique par exemple. Plusieurs amendements seront examinés la semaine prochaine, déposés notamment par l'une des rapporteurs, la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet. Manuel Ruffès nous en dit plus.
Elle le reconnaît tout de suite, Nathalie Goulet, on n'a pas les outils pour la chiffrer, cette fraude sociale. On sait pourtant qu'elle est la plus importante sur les prestations maladie et vieillesse. D'après la sénatrice UDI, il y aurait ainsi entre 2 et 5 millions de cartes vitales en surnombre. Elle propose donc un moyen d'y remédier.
C'est limiter la carte vitale dans le temps. Elle est attribuée à vie. Je considère qu'il faudrait mieux qu'elle coïncide au droit du porteur.
L'étudiant Erasmus, effectivement, il a une carte vitale ad vitam.
Elle est désactivée quand il quitte le territoire, à condition qu'il y prévienne et qu'il la restitue. S'il la donne à un copain, elle continue à fonctionner.
Les prestations sociales, souligne encore Nathalie Goulet, ce sont 450 milliards d'euros par an, d'où la nécessité d'un meilleur contrôle.
À partir du moment où le système est déclaratif, vous ne pouvez pas empêcher des gens de déclarer des choses fausses, depuis l'identité jusqu'à la composition de la famille, l'existence même, c'est-à-dire est-ce que je suis en vie ou pas en vie. J'ai des tas de morts qui perçoivent encore des prestations. Donc à partir du moment où c'est déclaratif, où les fichiers ne sont pas croisés, où il n'y a pas plus de contrôle, forcément vous ouvrez la porte à beaucoup de fraudes.
Mieux vaut faire la chasse aux fraudeurs que réduire les prestations de ceux qui en ont vraiment besoin. C'est de la justice sociale, soutient la sénatrice.
Manuel Ruffès, un comité interministériel ce matin sur l'immigration avec au programme une vingtaine de mesures. L'instauration d'objectifs chiffrés, de quotas sur les métiers dits en tension et puis un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à une couverture maladie. L'immigration, c'est aussi ce drame abominable. En Angleterre, c'est 39 corps retrouvés dans un camion frigorifique il y a 2 semaines. Des corps toujours pas identifiés avec certitude. En attendant le résultat de tests ADN, les autorités britanniques considèrent les victimes comme probablement vietnamiennes. Le Vietnam, un pays d'émigration au réseau très secret mais très structuré. Les explications de Julie Pietri.
La filière vietnamienne, c'est un monde à part, très organisé et silencieux, confie un policier haut placé qui décrit des migrants souvent terrorisés. Des pêcheurs, agriculteurs, petits commerçants issus de provinces pauvres du Vietnam, détaille Nadia Septaoui, membre de l'ONG américaine Pacific Links Foundation.
Pour eux, la seule solution est de partir en Europe pour obtenir un job qui puisse être correctement payé et subvenir aux besoins de l'ensemble de leur famille.
Le trajet est souvent le même, un vol en avion de Hanoï à Moscou, visa tourisme, puis un long parcours à pied et en camion à travers l'Europe pour enfin rejoindre le Royaume-Uni. Violaine Husson de la CIMADE a travaillé avec des mineurs vietnamiens placés en rétention après leur arrestation en France.
La plupart d'entre eux se rendaient en Angleterre pour devenir jardiniers et ou pour les filles travailler dans des salons d'onglerie ou de massage. On a appris et découvert que ces enfants étaient en fait attendus notamment pour travailler dans des fermes à cannabis pour l'exploitation du cannabis.
Des migrants adultes se retrouvent aussi exploités dans ces maisons où le cannabis est cultivé clandestinement. Ils espèrent ainsi rembourser une dette de voyage de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quant au risque pris en montant à bord de camions frigorifiques, notamment à Calais par exemple, ils n'ont pas vraiment le choix, commente encore une source policière. Les passeurs ordonnent, ils obéissent.
Julie Pietri. Le mois d'octobre 2019 a été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète, 0,69 degrés au-dessus de la température moyenne de la période de référence. Il s'agit du 5e mois consécutif battant ou s'approchant d'un record de température. Du sport et de la joie pour terminer, celle des Sud-Africains qui ont accueilli hier leur équipe de rugby championne du monde. Une équipe avec pour la première fois à sa tête un capitaine à la peau noire, Siya Kolisi, tout un symbole pour ce sport longtemps associé à l'apartheid. Les Springboks accueillis donc par des milliers de supporters, c'était hier soir le reportage de Claire Bargelès.
À l'apparition des premiers joueurs, la foule s'époumonne et se met à danser. Des chants fusent dans toutes les langues, chacun se prend par les épaules. Elvis n'est pas allé travailler pour pouvoir accueillir ses héros.
C'est très important, c'est la seule chose qui réunit autant la nation. On a connu beaucoup de problèmes, mais pour une fois, on vit quelque chose qui nous unit pour un moment de joie.
Les différences de couleur de peau s'effacent dans la vague vert et or qui déferle. Michel pense que le père de la nation arc-en-ciel aurait apprécié une telle image.
À mon avis, Nelson Mandela serait très fier de nous aujourd'hui. Tout le monde est là, de toutes les origines. C'est la vision qu'il avait pour l'Afrique du Sud.
Et la star la plus attendue, c'est Siya Kolisi, le premier capitaine noir de l'histoire, ému du soutien de la population tout au long de la compétition.
On a peut-être apporté des choses aux gens, mais tout ce qu'on a fait là-bas, c'est grâce au soutien ici en Afrique du Sud. Ce pays il y a beaucoup de défis à relever, mais on trouve toujours un moyen de s'en sortir, surtout quand on s'unit.
Les joueurs n'auront pas beaucoup de repos devant eux, puisque toute l'équipe s'apprête à faire le tour des grandes villes du pays pour partager le trophée avec leurs supporters. À Johannesburg, Claire Bargelès pour France Inter.
Voilà, de la joie des rugbymen sud-africains, la satisfaction des footballeuses australiennes. Les joueuses de l'équipe nationale percevront enfin le même salaire que leurs homologues masculins. Tout comme eux également, elles effectueront leur déplacement à l'étranger en classe affaires, Nicolas.